sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, lundi 22 avril, c'est le jour de la Terre aujourd'hui, alors ben, on va tous essayer de faire quelque chose pour elle, parce qu'elle en fait beaucoup pour nous, voilà. Aujourd'hui, on parle de sport adapté avec Maxime Gagnon, président directeur général d'Altergo, ce sera la 41e édition du défi sportif dans pas très longtemps d'ici, quelques semaines. Nous avons le plaisir également d'accueillir Federico Gaucha, qui est directeur général du Trait d'Union Outaouais. C'est le mois de l'autisme et on va parler de tout ce qui se passe, et en particulier en Outaouais, mais partout au Québec, dans ce cadre-là. Élisane Pellerin fera la revue de presse avec nous à partir de 12h45. Mais pour commencer, parlons de la technologie et de tous ces périls, de tous ces dangers qui nous menacent avec Lynn Dubé. Tout ça à Sans détour. Ah, on vient tout juste de me corriger, je m'excuse du lapsus, la 41e édition du défi sportif, c'est dans 4 jours, c'est le week-end prochain et non pas quelques semaines, alors on va s'y rendre le week-end prochain, là. On ne veut rien manquer, bravo. Bonjour Lynn.
Bonjour, ça va bien?
Ça va super bien, toi-même.
Bien sûr, sujet qui nous tient pas mal à cœur.
Oui, parce qu'on est tous un jour ou l'autre approchés ou d'une façon ou d'une autre là par des gens qui ne nous veulent pas du bien, ils veulent plutôt notre argent ou notre identité.
Effectivement, et de plus en plus, hein, depuis quelques temps, là, ça court partout. Alors, on veut bien sûr parler de la fraude sous toutes ses formes.
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, ça ne s'adresse pas juste à ceux qui ont un appareil mobile ou un ordinateur, aussi par téléphone.
Oui, ben il y avait quelqu'un qui m'appelait justement ce matin, là, un robot qui m'appelait Oui, c'était de la part de Bell Canada pour me dire que mon système était compromis.
Ah bien, coudonc, c'était de circonstance.
Je voulais l'inviter à venir parler avec nous, mais comme c'était un robot, ben ça n'a pas marché. Mais alors là, il y a ce qu'on appelle de l'hameçonnage.
Oui, en fait, on va parler aujourd'hui des différents types. On veut essayer de les reconnaître, oui. Hein, avoir le nez bien aiguisé. Puis on va essayer de savoir c'est quoi les trucs qui vont nous aider à ne pas se faire avoir.
Tout à fait.
Alors, dans les types, on a effectivement les hameçonnages. L'hameçonnage, on l'a par courriel, mais on l'a par plein de choses. Mais l'hameçonnage, c'est souvent quand on veut rejoindre un groupe. Hein, okay. On prend les informations d'une compagnie, d'un organisme, puis on se fait passer pour cet organisme-là. Et ça a l'air tellement vrai, fait que on va vous donner des trucs comment faire pour pas vous faire avoir. On a aussi, ça a l'air vraiment, on a vraiment l'air de des poissons parce qu'il y a un autre type qui s'appelle le harponnage.
D'accord.
Hey boy!
Ouais.
Alors, le harponnage, là, c'est vraiment quand on se sert de vos données personnelles pour vous convaincre.
Ah, ben là, on peut penser que c'est vraiment légitime parce que les personnes qui me contactent d'une manière ou d'une autre semblent déjà me connaître.
Effectivement. Alors, on vous dira quoi faire quand ça arrive. Donc, les textos et les courriels, c'est monnaie courante, mais il y a aussi les hameçonnages téléphoniques. Et ça, c'est abominable avec l'intelligence artificielle.
Oui.
Parce que ça ressemble de plus en plus à du vrai. Alors, attention, hein, dans ça, on va penser à tous nos aînés qui se font peut-être avoir avec un petit enfant, un de vos petits-enfants qui vous appelle, puis ça a l'air tellement vrai, c'est lui, puis il pleure, puis il a l'air démuni.
Oh là là!
Attention!
On peut copier la voix de quelqu'un et lui faire dire n'importe quoi.
Oui, tout à fait, et je vous le dis, là, c'est incroyable, ne réagissez pas trop vite. Ça va être une de mes solutions. Il y a même la fraude des grands-parents que ça s'appelle. C'est fou, hein?
D'accord.
Alors, dans les trucs qu'on a, là, on a la fraude des aînés, justement. On a aussi une fraude sur une carte. Hein? On vous dit qu'il y a eu une fraude sur votre carte.
Oui.
Si ça vous arrive, de grâce, ne rappelez pas le numéro de téléphone ou cliquez pas sur le lien pour en savoir plus. Appelez le numéro derrière votre carte pour vérifier
oui.
est-ce que c'est vrai. Hein? Soyons
oui,
vigilants.
Oui, tout à fait. Exact.
Parce Il y a la vente d'un article pas cher. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé.
Ah
là,
oui,
là,
ma mère... pas moi, mais je connais quelqu'un qui s'est fait proposer d'acheter un ordi.
Ma mère, elle s'est fait avoir et je l'ai... C'était drôle puis c'était pas drôle. Évidemment, quand on se fait avoir, c'est pas drôle. Mais elle était certaine que c'était Costco et qu'il vendait des beaux sapins à 1$. Ben, j'ai dit là, maman, tu t'es vraiment fait passer un sapin.
Oui, oui.
C'était le cas de le dire. Mais ça lui a coûté quand même cher. Hein? Puis souvent... Malheureusement, ce n'est pas remboursable. La banque ne vous remboursera pas parce que vous avez été négligent.
Oui,
c'est
voilà.
C'est à vous à être piffé.
Oui, ben c'est ça exactement. Il ne faut pas penser que le fait qu'on était de bonne foi et naïf, ce soit une excuse. Non, plus
mais
maintenant.
Mais c'est pour ça, c'est triste là, ce que je vais dire là, puis je vise personne, mais c'est pour ça qu'on vise les personnes d'un certain âge, parce qu'on sait qu'ils sont plus naïfs et on se sert de cette naïveté.
Ben, ils viennent d'une époque où les portes étaient laissées déverrouillées parce qu'on avait confiance
oui,
en nos voisins.
Effectivement, ben c'est ça. Mais là, soyez vigilants. Un courriel, hein? Combien de personnes ont reçu des courriels de personnes malfaisantes disant qu'un ami, quelqu'un était malade? Puis là, il y a de l'info sur cet ami-là, puis il vous demande de le contacter en privé sur courriel uniquement. Ben faites-le pas. Appelez cet ami-là, puis dites est-ce
tout
que
à
c'est
fait,
toi qui m'a envoyé
de vive
ce courriel-là?
Exact.
Tout à
oui.
fait. On fait la même chose avec notre petit-fils ou notre petite-fille si jamais on pense qu'il nous a appelés. Un dépôt dans votre compte, un colis pas reçu, hein? Tu sais,
oui, tout à fait. On reçoit des textos, des courriels d'entreprises, de transport, de courriers qui sont très connus. On voit leur logo, tout ça, puis ça dit « Ah, votre colis est bloqué à la douane. » Ben, il y a tellement de gens qui font venir. Ben, il faut payer une taxe ou quelque chose, s'il vous plaît. Puis c'est pas un gros montant.
Ouais.
Ils nous demandent juste de payer 23$. Mais,
Des fois, c'est 1$ et quelque chose.
Oui, mais c'est parce que ce n'est pas le dollar qu'ils veulent, c'est les données bancaires qui vont avec.
C'est en plein ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? Comment on peut les reconnaître? Hein? On ne reconnaît pas le nom, on ne reconnaît pas l'adresse électronique ou quelconque coordonnée. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais le courriel a l'air tellement vrai. OK, mais regardez de qui ça vient. Ne répondez pas. Ne cliquez pas sur de lien. N'ouvrez pas de pierre jointe, mais vous pouvez faire la manipulation parce qu'on sait très bien que quand on ne voit pas, c'est difficile d'avoir cette information-là.
Oui.
Faites comme si vous répondiez sans l'envoyer et regardez de qui ça vient. Souvent, c'est des courriels bidons Gmail.
Tout à fait,
là.
Oui.
Alors, regardez, c'est important.
Et souvent, ça va être le nom d'une entreprise, mais il va y avoir une faute d'orthographe. Il va y avoir juste une petite modification.
Ben, c'était ce que j'allais dire, justement, les fautes d'orthographe. Là, vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas bon en français. C'est pratique, des fois, d'utiliser la synthèse vocale, parce que quand il lit tout croche...
C'est tout croche.
Ensuite, on se dit, oh!
Ah, ben,
pour une fois, on a avantage. Hein?
Ben, des fois, c'est Netflix, mais au lieu que ce soit un N majuscule, c'est un F majuscule, en plein milieu du mot.
Ça. Alors, soyez vigilants là-dessus. Sinon, on va vous demander des infos personnelles. On le répète depuis quand même très longtemps. Il n'y a pas personne par courriel, par texto qui vont vous demander d'infos personnelles. Alors, vous ne donnez rien de personnel.
Hein? Et de la même façon, le gouvernement ou Hydro-Québec, souvent avec la saison des impôts, là, les retours d'impôts, l'Agence de revenus du Canada ne commencera pas à vous contacter par texto en vous disant
non.
On vous doit de l'argent, cliquez ici pour le recevoir. Hein? Voilà.
Effectivement. Puis, tu sais, les demandes urgentes, là, repassez, raccrochez, puis demandez un numéro de téléphone pour les rejoindre. Vous allez voir très vite que, oups, il n'était pas disponible.
Oui, tout
Alors,
à fait.
Alors, moi, ma suggestion, c'est quand c'est urgent, là, dites que prenez-les en défaut, puis dites-leur que vous aussi, vous êtes hyper occupé, puis vous les rappelez dans 5 minutes. Puis vous raccrochez, vous attendez pas qu'on vous entourloupe, là.
Oui.
Vous raccrochez, puis ça s'arrête là. Puis si c'est vrai, ben vous rappelez la personne en question qui était peut-être quelque chose. Hein, les voix robotiques aussi, là, c'est pas très vrai non plus.
Non, exactement. Ou une entreprise avec laquelle vous communiquez d'habitude en français qui tout d'un coup vous envoie un message en anglais aussi.
Oui, effectivement. Puis je pense qu'avec Apple, là, actuellement, il y a quelque chose, là, Apple, c'est rare qu'ils se font entourlouper eux aussi, mais ils se sont fait avoir, puis là, ça se peut que vous receviez un code de validation. Parce qu'on sait très bien que l'authentification à double facteur maintenant existe.
Oui, alors, c'est quand
on essaie de connecter notre compte, puis oups, ça nous envoie un code de 6 chiffres sur notre téléphone. Alors, si vous recevez un code de 6 chiffres qui n'est pas en cause de ce que vous êtes en train de faire, peut-être vous flushez le code de 6 chiffres.
Ah, oh là là, ils sont rendus là, ben oui. Hein? Oui,
on ne touche pas, parce que si vous entrez ça quelque part, ben, c'est peut-être vous qui allez être organisé.
Il y a aussi le genre de fraude dont il faut se méfier, qui sont des organismes de charité qui font du financement pour une catastrophe qui est arrivée hier. Hein?
Oui, ou je dirais même, dernièrement, qu'il y a un organisme ou un fraudeur ou quelconque qui vendait des belles boîtes de chocolat à l'effigie de Mira.
Oh!
Quelle horreur!
Oh là là, il
ça,
faut se méfier.
C'est profiter des gens.
Oui,
c'est
tout à fait.
Profiter des gens, pas à peu près.
Ils ont pris le logo de Mira, ils l'ont reproduit, puis ils ont vendu des boîtes de chocolat avec ça. Évidemment, l'argent va dans la poche de quelqu'un et non pas pour les chiens guides, et ainsi de suite. Bon, ben, il faut se méfier. Alors, en fait, il faut éviter l'impulsivité. Hein? Il ne faut pas penser que tout de suite, il y a une urgence, que tout de suite, il y a une aubaine ou qu'on est... On va être pourchassé par le gouvernement.
Il y a une aubaine où il faut qu'on donne une réponse rapide. Notre petite fille a besoin d'argent. N'agissez jamais rapidement. C'est jamais bien bon.
Et ne cliquez pas sur n'importe quoi, juste pour voir.
Non. Puis en fait, les gens se servent beaucoup de la curiosité et de l'appât du gain.
Exactement. Oui. Ben oui, on peut. Ben c'est ça qui. L'appât du gain, c'est ce qui motive aussi les fraudeurs. Alors.
Ben oui.
On a ça en commun avec eux. Mais faut pas rentrer dans le piège. Souvent, les mots de passe aussi, il faut se méfier de pas créer des mots de passe qui sont trop faciles. Il faut jamais partager son mot de passe avec quelqu'un. Mais là, jamais.
Sauf avec notre famille proche et de vive voix, de grâce, pas par texto, pas par courriel, on ne sait jamais.
Voilà, tout à fait. Parce qu'il y a aussi souvent on est dans un endroit public, puis on pense qu'il y a un réseau Wi-Fi, puis on commence à faire des transactions bancaires. Il faut se méfier parce que souvent un réseau Wi-Fi public, là.
C'est dangereux. J'aime se connecter sur une banque, une caisse, un truc sensible quand on est sur un réseau public.
Oui, par exemple, on est dans son hôtel en vacances, il y a le réseau Wi-Fi de l'hôtel, et puis là, on décide que pendant la soirée, on fait nos transactions bancaires avec l'application de la banque, là.
Ben, payez plus cher pour vos données cellulaires.
Ben voilà, oui, puis deuxièmement... Ce qui arrive, c'est qu'entre notre institution bancaire et nous, ben, il y a un réseau Wi-Fi qui peut être comme une passoire.
C'est en plein ça.
Alors, on se méfie, voilà. Ben,
et
merci.
Et on vous encourage à écouter Ami Télé dans les prochaines semaines. On vous en dira plus.
Oui, tout à fait. Merci, Lynn. À bientôt.
Ça fait plaisir. Bonne
journée. On va faire attention.
Oui. Thank you.
Hey, c'était joli. Taxi Brésil de Jesse Cook. Voilà. Alors, quelque chose à suivre. On a le plaisir d'avoir en notre compagnie M. Gagnon. Bonjour. Maxime Gagnon, président directeur général d'Altergo. La 41e édition du défi sportif, c'est dans 4 jours.
C'est exact.
41e édition, c'est incroyable. Il me semble qu'il y en a toujours eu des défis sportifs.
Ou presque. C'est mon 29e. Ouais. J'en ai fait quand même une coupe, mais ouais. Oui, ça a toujours été présent.
Voilà. Cette année, il y a 6000 athlètes qui sont attendus. Et ce chiffre-là tend à croître un peu avec les années. Il n'y a pas si longtemps, il y en avait 5000, puis avant ça, il y en avait moins. Et ce qui me frappe cette année, c'est qu'il y a plusieurs compétitions d'élite aussi.
Ben, c'est exact. On reprend un peu le momentum après la pandémie. Les oui. athlètes commencent à revenir. On vit certaines contraintes encore, malheureusement, pour tout le niveau scolaire. On a un petit peu moins de jeunes qu'à l'habitude, dû au transport, dû au nombre d'accompagnateurs qu'il n'y a pas assez dans les écoles. Mais dû à ça, nous, on contourne ces façons de faire. Donc, oui, le défi sportif, c'est notre événement fort qui est là à chaque année. On est bien content. Mais on va aussi se promener dans les régions pour faire des défis sportifs en région, qui est notre tournée à Vaumarc.
Oh, d'accord.
Justement pour permettre ça. Donc, on débute immédiatement après le défi sportif avec 6 régions cette année. Et on est en pour parler aussi avec les provinces pour faire des défis sportifs à travers le Canada.
Oh!
Donc, oui, le défi sportif, c'est des petits. Quand on dit que tout part d'ici, c'est notre slogan de cette année.
Oui.
Ben, c'est ce qu'on veut. Tout part du défi sportif Altergo à Montréal, mais on s'en va plus loin. Mais notre slogan de cette année, je pense que c'est quelque chose de bien parce que à l'approche des Jeux de Paris aussi, on est bien content de souligner les athlètes qui ont commencé chez nous. Il y a des bénévoles aussi, des arbitres, des officiels qui ont commencé chez nous, qui sont rendus sur le niveau international. Donc, tout part d'ici de toutes ses formes et on est bien content.
Mais il y a aussi un programme que vous venez de lancer qui s'appelle Interactif. Parlez-moi-en. Ça, c'est nouveau,
oui,
ça.
Ça va être notre 3e année. On travaille avec les gens d'AdaptaVie à Québec. Donc, on couvre l'ensemble du Québec au complet. C'est pour permettre d'outiller les professeurs, les intervenants qui sont avec la clientèle dans le but d'inclure et de donner des conseils, des trucs pour inclure des personnes qui ont des limitations fonctionnelles.
D'accord.
Donc, un professeur d'éducation physique qui, par hasard, durant l'année ou au début de l'année, a 1 ou 2 jeunes qui ont des limitations fonctionnelles, ben, au lieu de les mettre comme marqueurs dans les buts ou à bibliothèque, ben, lui, on lui fournit des outils pour mettre cette personne-là dans un mode positif et de voir que ses collègues peuvent avoir de la difficulté dans certains sports où lui, il y en a d'autres. Donc, ça fait l'inclusion de tout le monde. Donc, c'est l'interactif. C'est vraiment ça. C'est d'aider les intervenants à mieux accueillir des athlètes qui ont des limitations fonctionnelles et de leur permettre d'être actifs aussi.
Du côté international, parce que le volet scolaire, ça, c'est ce qui a un peu fait démarrer, si je peux dire, tout le concept. Mais le volet international croit qu'il va y avoir le début de la Coupe du monde de boccia.
Oui, alors c'est notre... ça fait plusieurs années. De mémoire, là, ça doit faire notre 8e ou 10e édition qu'on a. Mais d'année en année, on a de plus en plus de pays. L'an passé, ça a servi de sélection pour les Jeux de Paris pour certains athlètes. Et là, ça va servir de préparation pour les Jeux de Paris. Il y a plusieurs pays qui viennent là, s'entraîner parce qu'on est comme la dernière ou l'avant-dernière compétition avant les Jeux paralympiques.
D'accord. Je pense qu'on parle de 20 pays différents qui vont présenter des équipes dans cette compétition-là. Ça démarre le 29 avril à l'aréna Maurice Richard. Il va y avoir également au Cégep Édouard-Montpetit sur la Rive-Sud une compétition internationale de Power Chair Soccer.
Oui.
Si quelqu'un n'a jamais assisté à ça, moi, je peux vous dire que c'est pas mal spectaculaire.
C'est très spectaculaire. C'est la même clientèle un peu que le boccia, mais c'est un gros ballon de soccer qui a environ, je vous dirais, quoi, 1 mètre de diamètre. Là. Puis, c'est des fauteuils roulants qui vont de 0 à 10 km/h dans une fraction de seconde. Et je vous dirais que c'est assez difficile à contrôler. Moi-même, pour avoir essayé de jouer contre un de nos porte-paroles, Hugo Gérard, On n'était pas très habiles.
D'accord.
Et les athlètes se foutaient de notre gueule beaucoup, je vous dirais. Mais c'est vraiment une dextérité. Il y en a qui contrôlent ça avec leur menton. Il y en a qui contrôlent ça avec le bout de leurs doigts. Et c'est assez impressionnant de voir les stratégies qui se passent là et les beaux jeux. c'est incroyable de voir ce sport-là.
Mais en parlant de, comment je dirais ça, justement, d'essayer ça pour élargir le public qui va assister aux différentes compétitions du défi sportif Altergo, cette année encore au complexe Claude Robillard, vous allez avoir une zone d'essai sportif Loto-Québec. Comment ça fonctionne?
Ben,
on peut aller essayer du Power Chair Soccer, là, oui?
Ben, je ne sais pas si le Power Chair est là, mais il y a plusieurs sports qui sont là, le para-hockey, le basketball, le rugby, le boccia, le goalball, les personnes aveugles aussi est présent. Donc, je vous dirais que c'est une zone d'essai qui est là pas mal toute la journée, au deuxième étage du Saint-Claude-Robillard. Nos bénévoles sont présents, nos intervenants des fédérations sont présents aussi, et vous pouvez venir faire l'essai. Souvent, il y a des jeunes qui vont découvrir, qui font du sport d'été, qui veulent faire un sport d'hiver, vont découvrir, et vice-versa, ce qui fait que ce jeune-là ou cet athlète-là va pouvoir bouger tout au long de l'année. Donc, c'est la beauté de notre zone Loto-Québec.
Parce que là, on peut faire du boccia, vous dites, du basket en fauteuil roulant, du para-aviron, du para-hockey.
Oui, on a 10 à 12 sports présents cette année encore. Et les fédérations sont là pour recruter aussi, voir des nouveaux talents. C'est intéressant pour ça.
Mais je dirais, au-delà du défi sportif, Altergo, c'est beaucoup plus que ça. Là, hein? C'est pas 3 semaines par année, votre affaire.
Ben, c'est ce que je vous disais, c'est que maintenant, on va se promener dans les régions, on va se promener à travers le Canada, puis le jeune ou l'athlète qui commence sa saison a hâte de venir au défi sportif. Pour lui, c'est souvent un tremplin, c'est sûrement un tournant avant une grosse compétition. Il y a plusieurs, les jeunes qui sont dans les écoles se font demander, demandent au professeur, c'est quand le défi sportif? Ils rentrent au mois d'août, septembre, puis déjà, ils veulent venir au défi sportif. Donc, on a des belles retombées là-dessus positives. Les parents, les entraîneurs nous témoignent régulièrement et on a des études qui le prouvent aussi. Donc, c'est ce qui est intéressant. Donc, c'est pas juste un événement du jour par année, c'est à longueur d'année, comme vous le disiez si bien.
Oui, ben pour ça, j'essaie de... Vous avez été, je pense, enfin, Altergo, c'est comme restructuré ou a changé un petit peu, je dirais, son allure corporative, si je peux dire, ou sa façon d'opérer. Oui. Altergo, maintenant, ça regroupe 3 entités.
C'est exact. Alors, on a Altergo Événements qui s'occupe de faire des événements. Donc, oui, on a des sportifs, mais on a d'autres événements qui s'en viennent. Et on veut prendre un virage culturel aussi.
Oh.
Donc, on veut travailler avec des organisations qui ont déjà un volet culturel, des grands festivals. Ou bien, nous, on va préparer quelque chose peut-être éventuellement aussi, toujours dans un but de faire découvrir, de faire bouger les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. L'inclusion sociale, briser l'isolement, c'est hyper important. Donc, c'est pas tous des sportifs. On va ouvrir éventuellement le volet culturel. Donc, Altergo Événement. Altergo Expertise est là pour donner des conseils, donner des formations à des villes, à des compagnies, à des arrondissements. Donc, on est là pour aider. On a des beaux projets aussi avec cette équipe-là au niveau de l'expertise. Et on a Altergo Association qui est un regroupement de 14 associations à travers le Québec. Donc, Altergo est celle de Montréal qui offre des programmes aux personnes handicapées au niveau programme d'accompagnement à loisirs. On a quand même 145 organismes membres chez nous. Donc, il faut en prendre soin. Dans notre prochaine planification stratégique, les membres vont avoir une grande place. Donc, c'est les 3 nouveautés qu'on a. C'est les noms qu'on a changés pour refléter un peu plus
vos actions. Oui, exactement. Les différents types d'actions que vous menez. C'est certain qu'un événement aussi important que le défi sportif demande une armée de bénévoles. À chaque année, est-ce qu'il est encore possible d'aller donner un coup de main?
Il nous reste quelques plages, des disponibilités à gauche et à droite. Les groupes, c'est quand même comblé. On a beaucoup de compagnies maintenant de bénévoles corporatifs qu'on appelle. Donc, pour nous, ça fait notre grand bonheur parce que d'avoir des bénévoles de jour, c'est pas toujours évident. Mais il nous reste encore quelques places, mais c'est plus de 1100 bénévoles qu'on va avoir cette année dans cette grande équipe.
D'accord. Et tout ça va commencer par une cérémonie d'ouverture. Je pense qu'il va se tenir le 29 avril prochain, donc c'est au milieu de la semaine prochaine.
Après ça, nos compétitions commencent le vendredi, officiellement le 26, avec le mini-marathon, où on aura plus de 1000 jeunes qui vont faire différentes distances autour du parc Jarry. Le samedi, le dimanche, c'est des compétitions de boccia, compétitions de para-hockey aussi. Et l'ouverture officielle est lundi, le 29. Mais à tous les 5 jours de la semaine, il y a des ouvertures parce que les écoles viennent une fois, des fois, avec un même groupe. Plusieurs écoles vont venir avec différents groupes, mais ça leur permet de vivre cette grande cérémonie d'ouverture-là, qui est la cérémonie du défi sportif Altergo.
Ça, c'est le 29 avril à 9h30 du matin au complexe sportif Claude Robillard. Et ceux qui ne sont, ou celles qui ne sont pas familières avec le défi sportif, si vous voulez avoir un premier coup de cœur, là, je pense que la cérémonie d'ouverture fait partie de ça. De sentir l'enthousiasme puis le plaisir là, qui se dégage des jeunes et des jeunes athlètes dans le stade là, quand ils font la parade là, avec
l'entrée.
Ça c'est
l'entrée des athlètes.
Exactement, ça c'est super là, l'énergie qu'il y a sur les lieux, c'est faut pas manquer ça, tout à fait. Vous avez mentionné Hugo Girard, vous avez des porte-parole cette année.
On a toujours nos porte-parole qui sont là, une belle équipe eux aussi. On a Nancy Audet, on a Chantal Petitler, Hugo Girard, Mickey Guerrier et bien sûr notre doyen
Jean-Marie
Lapointe.
Oui, qui est là depuis très longtemps. Ben merci beaucoup.
Jean-Marie et Chantal sont là depuis longtemps. Oui, ben merci beaucoup, bien apprécié, merci de m'avoir reçu.
Bye.
Toujours un plaisir. Au revoir.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Avril, cette année, avril 2024, c'est le mois de l'autisme au Québec. Et sous le slogan « L'inclusion, c'est l'affaire de tous », ce 40e mois de l'autisme. Alors, 40e, ça fait 40 ans que ça roule. Trait d'Union Outaouais, entre autres, et d'autres organismes réaffirment leur engagement pour favoriser l'intégration sociale des personnes autistes afin qu'elles puissent s'épanouir dans leur communauté. La Fédération québécoise de l'autisme, FQA, et les associations régionales ont célébré au courant de tout le mois d'avril, sous le thème « Ensemble, faisons briller l'autisme dans toute sa diversité ». Une série d'événements, d'activités, de contenus ont été déployés et le mois n'est pas fini, il nous reste encore une dizaine de jours, à laquelle toute la population est conviée. L'autisme, également connu sous le nom de trouble du spectre de l'autisme, est un trouble neurodéveloppemental avec des répercussions d'intensité variables sur la communauté et ça affecte les capacités ou la facilité de communication, les modes de communication, l'interaction sociale, le comportement d'une personne au Québec. On pense que le taux de prévalence est estimé à 1,5%. 1,5%, ça fait quand même pas mal de monde, donc c'est presque sûr qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, votre voisinage, votre travail, votre famille, qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Chaque geste compte pour construire ensemble un avenir où chaque personne autiste est respectée, comprise et célébrée, parce que justement, ces difficultés parfois de communication vont créer un isolement qui est malheureux, qui est inutile, puis qui ne permet pas à la personne de s'épanouir pleinement. C'est de notre diversité que naît notre richesse collective. Bon, voilà. Et depuis 36 ans, la Fédération québécoise de l'autisme répète ce message. Le 2 avril, au tout début du mois, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et l'occasion a été évidemment soulignée de faire un pas de plus dans cette direction-là. La deuxième phase de la campagne de financement au profit des camps d'été spécialisés en Outaouais bat son plein et nous aurons peut-être bien le plaisir d'en parler prochainement avec les gens de l'Outaouais. La marche pour l'autisme également va avoir lieu ces prochains jours, le 27 avril, à l'école Pierre-Éliott-Trudeau, à l'école élémentaire, dans la région de Gatineau. Alors, on va voir à suivre tous ces événements. Voilà. Thank you. sans plus, recommençons. On a le plaisir d'avoir en notre compagnie M. Federico Gaucha, directeur général du Trait d'Union Outaouais. Bonjour, M. Gaucha.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va très bien, je vous remercie. On a eu des petites difficultés pour se rejoindre et semble-t-il que toute la faute repose sur nos épaules, on s'en excuse.
Mais non, il n'y a pas de faute. Je suis content qu'on a réussi à communiquer.
Et voilà, c'est ce qui compte. Parlez-moi de ce qui se passe en Outaouais, justement, dans le cadre du mois de l'autisme en avril.
Oui, bien justement, Trait d'Union Outaouais est le seul organisme vraiment qui dessert la population autiste dans tout l'Outaouais. Et le mois de l'autisme, il se passe avec plusieurs activités intéressantes. Mm-hmm. Justement, sur notre site Facebook, on a partagé des témoignages qui viennent des personnes autistes de partout au Québec grâce à la Fédération québécoise de l'autisme. Et nous, on lance notre campagne de financement à Trait d'Union pour nos camps d'été.
Oh,
donc,
oui.
C'est une belle possibilité pour tous les jeunes enfants et adultes d'avoir des services d'été, des services de loisirs et donner aussi du répit aux familles.
Oui, ça c'est important, mais le camp d'été, pouvoir prendre l'air, pouvoir sortir de chez soi, faire des activités, être en contact avec des gens autour de nous, ça c'est super important. Et il y a eu des difficultés dans les dernières années pour recruter du personnel, ainsi de suite. Les camps de jour ont pas eu la partie facile récemment. Comment vous en êtes tiré?
Oui, la pénurie de main d'œuvre, ça nous affecte tous. Malheureusement, nous avons la difficulté quand même. On réussit à pouvoir recruter des intervenants et pouvoir offrir quand même. L'année passée, on a offert quand même à 83 personnes les services. On espère cette année pouvoir les faire encore. Donc, c'est sûr qu'on est en plein mode recrutement. On a déjà commencé il y a quelques mois à recruter pour l'été. Donc, on se prend toujours un petit peu d'avance. Mm-hmm. Et effectivement, c'est ce que vous avez dit, c'est très important, mais pas seulement pour Trait d'Union d'offrir ce service. Nous, on encourage vraiment tous les camps d'été, tant privés comme de la ville, pour pouvoir accueillir aussi des personnes autistes dans leur camp. Nous avons un programme à Trait d'Union qui s'appelle Les Amis des Autistes et
d'accord.
Dans ce programme-là, c'est la sensibilisation et la formation.
Oui, ça c'est important, ça. Oui, je peux comprendre. Des gens qui voudraient bien ouvrir leurs portes plus largement, mais ils ne savent pas comment s'y prendre.
Exactement. Puis justement, l'inclusion, c'est une affaire de tous. Hein. C'est pas juste Trait d'Union. Notre mission exclusive, c'est l'inclusion sociale, mais nous aimerions aussi comme conscientiser la société que c'est vraiment une affaire à tous, puis qu'on puisse tous vraiment rendre cette société beaucoup plus inclusive, pas seulement pour les personnes autistes, mais pour tout le monde.
Exact. Puis ça, c'est. Vous me dites que la campagne de financement est en cours pour quelle forme que ça prend? Est-ce qu'il va y avoir des activités, un dîner? Comment est-ce qu'on peut participer pour vous aider?
Exactement. On a eu plusieurs partenariats. Donc, par exemple, avec Benny et compagnie, au début du mars, on faisait une campagne de tous les beignets qui pouvaient s'acheter. Il y avait une portion qui allait pour les camps d'été, puis une partie pour Trait d'Union. On a aussi la marche de l'autisme qui s'en vient le 27 avril prochain. Et on l'a fait en partenariat avec l'école Pierre-Éliott Trudeau.
Okay.
C'est dans la rue 2000A au secteur des Halles. Puis, c'est une journée, pas juste on a une marche, mais c'est une journée d'activité. Il va y avoir des partenaires qui vont avoir leur temps pour parler des services qu'ils offrent à la communauté en général, des activités, châteaux gonflables, des chevaux, des tours de magie. Et on a justement, on fait une petite marche, je vous dirais, pas trop longue, mais une marche surtout pour sensibiliser la communauté. à l'autisme.
Ça, c'est samedi prochain, le 27 avril. Ben, c'est sûr qu'on vous souhaite d'avoir une belle température, hein, parce que ça
oui.
va être... c'est important.
On aimerait avoir... L'année passée, on a marché quand même avec une très grande pluie.
Okay.
On espère que cette année, on aura du beau soleil. Et l'invitation est ouverte à tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est à 10h du matin. Ça commence à 10h du matin avec de belles activités. Et il va y avoir aussi des discours faits par des élèves de l'école, par des membres des Traits d'Union. Ça va être vraiment une très belle journée.
À part de votre activité dont on vient de parler, les camps de vacances, aussi dans la formation pour aider d'autres institutions, d'autres organismes à accueillir des personnes qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme dans leurs activités, que faites-vous pendant l'hiver entre septembre et aujourd'hui? Qu'est-ce que...
Pendant l'hiver, bien, c'est sûr qu'on a des activités au niveau scolaire. Donc, oui. On continue à donner du répit de soirée, du répit de jour. On a des activités pour les adultes. Et on a un service d'info-conseil et de soutien pour les personnes membres des Traits d'Union ou pour la communauté en général sur des personnes qui viennent de recevoir les diagnostics, comment se prendre, quels... On a un comité d'action politique aussi. En ce moment, on travaille beaucoup sur les dossiers scolaires et les camps d'été. Et on fait des campagnes de sensibilisation, des campagnes de formation, parce qu'on trouve, pour pouvoir avoir une inclusion, c'est pas juste nous à Traits d'Union qu'on doit travailler, mais c'est tout le monde qui doit travailler, oui, pour qu'on puisse inclure tout le monde.
Oui, parce que ça, c'est important. Ça ne peut pas être juste un organisme spécialisé, si je peux dire. Il faut que ce soit toute la région de l'Outaouais là, qui se donne la main pour que ça fonctionne. C'est pas c'est pas à vous de tout porter là, sur vos épaules, si je peux dire. Mais le fait d'avoir, comme vous le dites, à la fois du répit, puis à la fois de l'information pour les personnes qui viennent de recevoir... récemment un diagnostic, ça peut être les parents, ça peut être la personne elle-même, parce que souvent, ça peut être angoissant d'apprendre que notre enfant, tout d'un coup, on apprend ça, là, c'est un peu comme une bombe qui tombe dans la famille. Là. C'est important d'être en contact avec des gens qui ont aussi passé par là.
Oui, ce n'est pas du tout évident, c'est très dur, très difficile. On est là pour accompagner, pour guider, pour soutenir. On a des groupes d'entraide aussi pour les parents et pour les adultes autistes, parce que justement, c'est un lieu où on peut se retrouver et parler de nos difficultés, parler de nos défis, puis être compris. C'est ce qui encourage beaucoup aujourd'hui, quand on peut vraiment parler sans peur, partager ce qu'on est en train de vivre, puis en même temps recevoir du conseil, savoir quoi faire pour ne pas être trop perdu.
Oui, oui, tout à fait. Et ça va amener à une plus grande ouverture de part et d'autre. Puis là, ben, finalement, on va avoir un monde plus inclusif où tout le monde participe et tout le monde peut développer son potentiel. Ben, M. Gauchard, je vous remercie beaucoup.
Grand plaisir.
Oui, oui.
On vous attend tous à notre
le 27, samedi, 27. Samedi prochain, oui. Le 27, à l'école élémentaire Pierre-Éliott Trudeau. On va avoir une belle journée. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas.
Merci. Et vous pouvez toujours nous suivre aussi sur Facebook à Traits d'Union Outaouais. Là, on partage beaucoup d'informations. On partage des nouvelles de ce qu'on fait. Puis vous pouvez aussi visiter notre site web avec nos nouvelles puis nos activités.
Traits d'Union Outaouais. Voilà. Ben, merci. Bonne chance.
Merci beaucoup. Thank you.
تتمني سايا ما سرى مري جيني يطراني ورغينا كالي جيني وشتماني ورغينا كالي
De retour avec Élisane Pellerin. Bonjour, Élisane.
Bonjour.
On fait une fois de plus le tour du monde, puis avec une perspective d'accessibilité. Et la première nouvelle nous vient du Royaume-Uni.
Oui, au Royaume-Uni, on a une première ambassadrice aveugle.
Oh!
Donc, avec son chien guide Otto, qui va se rendre donc à Slovanie en août pour aller représenter donc le Royaume-Uni, donc une diplomate, en fait.
C'est la première diplomate. À titre d'ambassadrice, ça veut dire qu'elle est au top de la pyramide,
oui,
là, dans la délégation.
Oui. Et donc, voilà, elle va aller représenter le Royaume-Uni en Slovanie en août. C'est la première fois, donc, qu'une personne totalement aveugle va avoir accès, justement, à ce niveau de haute diplomatie, donc de comme ambassadrice. C'est Mme Victoria Harrison qui va prendre ce poste-là en nous. Et c'est une première parce qu'évidemment, une personne qui est totalement aveugle a quand même besoin de certaines adaptations. Et donc, ça n'avait jamais été fait avant aujourd'hui. Mais le fait que ce soit maintenant chose faite, donc elle va prendre un poste au niveau au mois d'août, ça va ouvrir des portes pour les prochaines diplomaties. Et puis bon, le fait qu'elle travaille, qu'elle voyage aussi avec son chien d'assistance.
Ça va peut-être obliger la Slovénie à s'adapter. Je connais pas les conditions d'accessibilité en Slovénie, mais
je ne les connais pas non plus, mais j'imagine qu'il doit avoir un peu de travail à faire, comme partout, hein?
Oui, tout à fait.
Parce qu'ici aussi, on a un petit peu de travail à faire.
Oui, on n'y échappe pas. On peut penser, parce que quand on pense à une ambassade, on voit un édifice souvent très joli, pittoresque, mais un peu vieillot.
Oui.
Alors, peut-être que
c'est pas toujours adapté. J'en ai fait quelques-unes, adapté.
Exact. Puis, quand on est ambassadeur, bon, on a affaire à discuter avec des gens, puis à les convaincre, puis et là, on peut penser que face à une personne handicapée visuelle, peut-être que les Slovènes vont se donner des petits coups de coude, là, puis...
Oui.
ils vont essayer de faire... Mais la Slovénie, ça paraît pas, c'est un petit pays, mais de point de vue géopolitique, là...
Ils s'en passent des choses.
Avec ce qui se passe en Ukraine...
Oui, ils s'en passent des choses.
À leur porte, là, c'est important d'avoir leur soutien. De politique internationale, on fait un saut en littérature.
Oui, on fait un saut en littérature. Il y a un premier prix littéraire jeunesse sur le handicap qui va être mis... qui va ouvrir, en fait. Donc, ça s'appelle les Petites Cuillères. C'est l'association anti-féministe et dévaliseuse qui ont dévoilé au début du mois d'avril qu'il y aura un prix littéraire pour les personnes, pour la littérature jeunesse sur les personnes en situation de handicap. Donc, en fait, il va falloir soumettre des œuvres dans lesquelles il y a au moins un personnage qui vit avec une situation de handicap au sens large. C'est-à-dire que ça peut être une personne âgée, par exemple, une personne qui va être de corpulence un peu plus élevée, donc qui va souffrir de grossophobie, par exemple, autour d'elle.
Oui, qui peut être une autre forme d'exclusion sociale.
Oui,
là,
et de discrimination.
Exact, ou même des fois les lieux physiques ne sont pas adéquatement pensés. Les jurys vont être des enfants de 8 à 15 ans.
Oui, alors... les jurys vont être des enfants, des adolescents de 8 à 15 ans. Donc, ça aussi, c'est intéressant, François, parce que, justement, évidemment, ces jeunes-là vont être appelés à lire plusieurs livres. Oui. Qui présentent des personnes en situation de handicap. Et on le sait, là, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les livres qu'on fait lire aux enfants de cet âge-là. Donc, ça va leur permettre de les mettre en contact avec un handicap de façon ludique, bien sûr. Et évidemment, ils vont pouvoir voter pour leur préféré et donc attribuer le prix. Les écoles peuvent... s'inscrire, c'est en France, ça, par contre, c'est pas ici. Par contre, je voulais vous en parler parce que je trouve quand même que c'est une bonne initiative. C'est
tout
quelque chose qu'on pourrait répliquer ici. Ça permet à des enfants d'avoir contact avec un handicap. Ça permet aussi à des auteurs, à des autrices de se faire connaître et à des gens, justement, des auteurs, des autrices qui pourraient avoir un intérêt pour parler du handicap, de pouvoir le faire dans un cadre... ou c'est
pédagogique.
Pédagogique, ouais. Ou c'est ludique, pédagogique. Et donc, je pense que c'est une bonne idée et qu'on pourrait faire un peu la même chose ici.
Ben, ça va certainement nous donner une liste de lectures. Hein. Ça va être intéressant de retrouver les titres des auteurs, les autrices et les titres des œuvres qui vont être en candidature. Et peut-être, comme c'est en France, ben, ça va être facile à transporter ici. Et donc, c'est l'association... anti-féministe qui s'appelle les dévalideuses, hein, qui... et non pas les dévalideuses. Dévalideuses, c'est amusant comme nom. Les petites cuillères, ce nom vient d'une référence à une théorie des cuillères d'une autrice et blogueuse américaine, Christine Miserandino, qui ça illustre un peu le fait que les personnes en situation de handicap, parfois, ont des réserves d'énergie qui sont taxés. Hein,
oui,
parce que
qui peuvent différer d'une personne à l'autre parce qu'un handicap peut demander plus d'énergie pour les tâches quotidiennes, d'autant plus quand c'est mal adapté, évidemment.
Oui, ben voilà, on passe, comme on dit, on passe notre vie à faire attention.
Oui.
C'est fatigant à faire attention tout le temps. Santé, là aussi, il y a peut-être une avancée intéressante et un rapprochement à faire.
Oui, il y a une avancée donc au niveau des recherches qui suggère que les médicaments courants contre le VIH, donc le virus qui cause le sida, pourraient réduire le risque de maladie d'Alzheimer.
Oh!
C'est une étude qui a analysé 225 000 patients, donc c'est quand même une étude à grand déploiement. Et des chercheurs de Stanford Burnham Priebus ont découvert des liens positifs entre certains médicaments anti-VIH et la maladie d'Alzheimer. On parle donc aux États-Unis, ça a été dirigé par Gerald Schum, qui est un docteur, en fait, et ça a été publié dans la revue Médicaments.
Mais, et ça, c'est intéressant, parce que pendant les années 80-90, le VIH était, encore aujourd'hui, est une... comme je dirais, est une vague mortelle qui a déferlé sur la population dans le monde. Aujourd'hui, c'est mieux contrôlé.
C'est mieux contrôlé, effectivement.
Mais avec le vieillissement de la population, aujourd'hui, c'est comme l'Alzheimer qui arrive en première page.
On pourrait quand même recycler certains médicaments qu'on utilise moins. Encore, faut-il préciser que quand même, dans certains pays, la lutte contre le VIH, c'est encore quelque chose de très, très d'actualité. Mais ici, on en parle un peu moins. Et effectivement, là, au niveau de l'Alzheimer, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'Alzheimer qui sont détectés. Il y en a de plus en plus. Et effectivement, trouver des médications qui peuvent, à tout le moins, réduire les symptômes ou empêcher une dégénération trop rapide, ça pourrait effectivement aider beaucoup de gens. Évidemment, là, c'est un tout début. Hein. On a vu une certaine corrélation.
Oui, voilà, corrélation et causalité sont deux choses.
Oui, voilà, on a vu une certaine corrélation et donc il faut approfondir les recherches. Monsieur Sean lui-même, qui est le médecin en charge, nous dit de ne pas s'alarmer avec ça, qu'on a encore beaucoup de recherches à faire. Par contre, effectivement, les recherches vont être poussées tant au niveau de Monsieur Chung et de ses collègues qu'au niveau de d'autres chercheurs. Et donc, dans les prochaines années, on pourrait arriver à des résultats significatifs.
Ben, oui, en fait, la façon que ça a été mené, c'est qu'ils ont pris littéralement des centaines de milliers de dossiers d'assurance et ils se sont aperçus que les personnes les personnes vivantes séropositives auxquelles on prescrivait des types de médicaments, à la longue, déclaraient beaucoup moins de cas d'Alzheimer. En fait, les personnes vivantes séropositives, il y avait 2,4% de diagnostic d'Alzheimer quand il dépassait l'âge de 65 ans, 2,4 pardon, par 1000 personnes, alors que les personnes séropositives prenant ces inhibiteurs, et alors que la population en général, le taux de prévalence était de 6,1% par 1000. Alors, 6,1 par 1000. Donc, les personnes qui prennent des inhibiteurs parce qu'ils sont séropositifs ont deux fois moins de chances de développer de l'Alzheimer avec...
Il y a une corrélation
deux pour un, semble-t-il, dans la population sur un très grand échantillon.
Alors, encore faut-il creuser pour voir exactement ce qui se passe et trouver quel ingrédient fait effet et tout ça. Donc, on commence les recherches et je ne suis pas médecin, c'est moi qui vais vous expliquer plus en profondeur, mais...
Peut-être que ça va revenir avec une chronique avec notre ami Philippe Ducharme.
Oui, on a parlé avec Philippe Ducharme, qui va être beaucoup mieux que moi pour expliquer ça, mais c'est à suivre.
Exact. Le handicap, les associations en France fustigent les organismes publics.
Oui, ben pour faire changement, en fait, il y a le Conseil de l'Europe et puis la France pour violation des droits des personnes en situation de handicap. Plusieurs associations de défense des droits humains ont dénoncé mercredi, donc le 17 avril, l'inaction du gouvernement français pour faire respecter les droits des personnes. Donc, malgré toutes les belles promesses qu'on a faites, les avancées sont très peu visibles sur le terrain et voilà que les associations perdent patience.
Oui, ben c'est ça. L'année dernière, ils ont été épinglés par le Conseil de l'Europe. Président Macron promet 1,5 milliard d'euros à l'accessibilité et tout ça. Et puis, maintenant, on s'aperçoit que cet argent-là, où est-il? Comment a-t-il été dépensé? On va s'en reparler juste après la pause, parce qu'il va être question encore de Paralympique!
De Paralympique!
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour avec Élisane Pellerin. Oui, on faisait une blague avant la pause, Élisane. C'est vrai qu'on parle des Paralympiques chaque semaine.
On en parle beaucoup ces jours-ci, mais à notre défense, ça sent bien, François, et donc il faut en parler.
Oui.
C'est beaucoup en lien, évidemment, avec l'accessibilité, parce que, sans surprise, François, la France ne sera pas prête au niveau de l'accessibilité. Paris ne sera pas assez accessible.
On peut dire qu'ici, à la revue de presse, on l'avait vu venir.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous en doutiez, François, ou si je vous surprends.
Non, pas vraiment. C'est vrai qu'on a lu, pour nos auditeurs, des nouvelles au cours des derniers mois où à chaque fois, Le délai semblait de plus en plus serré. Voilà. Bon, ben on est rendu au point où le président Emmanuel Macron reconnaît un échec.
Reconnaît qu'au niveau du métro parisien, ce ne sera pas adapté pour les Jeux olympiques, malgré le fait qu'on voulait adapter beaucoup plus de stations. En ce moment, il y a seulement la ligne 14 qui est entièrement adaptée. Donc, effectivement, là, François Macron est obligé de reconnaître que c'est un échec. On est à près de 100 jours du lancement de Paris 2024 et il y a seulement, donc je le dis, une ligne d'accessible, alors qu'il va y avoir évidemment plusieurs milliers de personnes en situation de handicap dans la ville de Paris. Après, François Macron nous dit qu'il va y avoir quand même des plans B qui vont être mis en place, entre autres.
Ben c'est ça. Il parle de des voies de contournement, par exemple. La mise en place d'un millier de taxis adaptés.
Oui.
Ça me semble... là aussi, j'ai un peu de misère, parce que prendre un millier de taxis, puis de les adapter, puis de les mettre en circulation...
On n'a peut-être pas la même vision de ce qui est adapté, François.
Non, oui, ben il y a ça. Je ne sais pas combien de taxis adaptés qui existent déjà, mais il s'impose d'adapter 1000 véhicules très vite et de former tout le monde. Moi, j'ai des doutes. Bon, la ligne 14, mais ça suppose qu'il y a au moins 13 autres lignes. Hein?
Oui, minimalement.
Minimalement.
Et effectivement, ils ne sont pas toutes adaptées. Et malgré le fait qu'on continue les efforts, parce qu'il nous reste 100 jours, adapter une ligne de métro, c'est très long. Hein? Ça prend quand même des infrastructures, des changements au niveau des infrastructures qui sont majeurs. On n'y arrivera pas, François, mais comme on l'a dit, on n'est pas nécessairement... particulièrement surpris. C'est toujours un peu comme ça, hein. On fait des efforts et on voit grand et finalement on se rend compte qu'on prend du retard et que ses coûts sont plus élevés que prévu et on a toutes sortes d'urgences à régler et finalement on n'y arrive pas.
Ben oui, puis évidemment la ligne 14, c'est celle qui amène directement dans la région parisienne au nord où il y aura le plus de compétitions qui vont se dérouler. Mais tout de même, avec les Paralympiques, ce sont des milliers d'athlètes qui vont être en situation d'handicap et évidemment aussi des milliers de spectateurs,
de
touristes.
Exact. Également.
Ça, c'est énorme. On assure que les tramways, les autobus seront adaptés, mais il va y avoir des maillons de la chaîne qui vont manquer. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de réaliser des grandes choses. Quand il y avait eu l'incendie qui avait détruit toute la toiture et la flèche de Notre-Dame de Paris, le président Macron avait promis que Notre-Dame serait réparée en 5 ans et semble-t-il que la promesse va avoir été tenue.
Est-ce que je dois commenter là-dessus, hein, François? C'est juste au niveau des priorités. Hein? Des fois, les priorités ne sont pas les mêmes.
Voilà, c'est ça.
Au niveau de
ça.
La cathédrale, on avait vu que les gens avaient été dévastés. Ça avait donné énormément d'argent.
Oui.
Et j'enlève rien à la cathédrale, qui est très belle, que j'aime beaucoup. Mais on dirait que les gens sont beaucoup moins portés à
aider leurs prochains.
S'insurger pour les personnes en situation de handicap.
Oui,
mais bon,
oui.
C'est
vrai. Quand Notre-Dame de Paris, on voyait les photos, là, c'était les images de l'incendie. C'était terrible. De l'argent qui a afflué partout dans le monde.
Oui, et pourtant, dois-je vous dire qu'un peu partout dans le monde, il y a des choses bien pires qu'à la cathédrale qui brûle et on s'en fait pas trop.
Ah, ça, c'est voilà.
Ça y a dit, j'aime beaucoup la cathédrale, j'ai rien
ouais,
à dire.
Ben, c'est super, puis on est très content qu'elle soit rebâtie en 5 ans.
Tout à fait.
Mais, voilà, enfin. Parlant de Jeux paralympiques ici au Canada...
On va avec une bonne nouvelle, François, parce qu'effectivement, tout n'est pas noir au niveau des Jeux paralympiques. Au niveau du Canada, donc le Comité olympique canadien a présenté mardi dernier les vêtements que porteront les athlètes du pays aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de Paris. C'est avec une collaboration de Lululemon,
qui est un spécialiste des vêtements de yoga.
Oui.
Qui est une compagnie canadienne.
Oui. Et donc, ça fait quand même quelques années qu'ils sont partenaires, mais là, cette année, on fait ça en grand. C'est eux qui ont fait donc le design des vêtements. Et les vêtements ont été pensés pour les athlètes qui ont des situations de handicap. On a même demandé leur avis à des athlètes qui sont en situation d'handicap, ce qui est nouveau parce que généralement, on n'avait jamais fait ça, de demander leur avis à ces gens-là pour être sûr d'avoir un vêtement qui convienne à leur sport.
Exact.
Et donc, c'est une belle avancée à ce niveau-là.
Oui, ben voilà. Alors, les athlètes paralympiques... ont été appelés, comme vous le dites, à contribuer pour voir ce que les vêtements soient adaptés, que les fermetures éclairs soient magnétiques plutôt que des petits zippers qui faillent
oui,
mettre
parce
un
que
dans
quand,
l'autre.
Quand t'es quadriplégique, c'est difficile.
Ben, les petits bouts qui rentrent dans l'autre petit bout, là, puis qui faillent tirer dessus, c'est pas évident.
Je peux en parler, c'est pas facile.
C'est un test chaque matin. Et puis, avec des fermetures éclairs magnétiques, des boucles pour tirer, des repères tactiles pour faciliter l'utilisation. On se félicite et le résultat est spectaculaire.
Oui, ils sont très beaux.
On va ressortir de la parade, si je peux dire ça. Alors qu'une compagnie demande aux athlètes paralympiques leur opinion, ben ça, c'est très bien. La semaine dernière, on parlait de comment la recherche pour optimiser les performances des athlètes paralympiques pouvait plus tard...
aider à démocratiser la technologie pour que monsieur, madame, tout le monde en situation de handicap puisse
en profiter.
En bénéficier. C'est la même chose un peu au niveau des vêtements, des jaquettes. En fait, hein, ils vont être mis en vente. Donc, les personnes ne vont pouvoir les acheter, qu'on soit en situation de handicap ou non. On va pouvoir avoir accès à ces vêtements-là, qui sont d'ailleurs très beaux. Et tant mieux si ça permet à des gens en situation de handicap d'avoir des vêtements qui répondent mieux à leurs besoins.
Exact. Et peut-être à d'autres fabricants de vêtements qui vont pouvoir adopter certaines techniques.
Oui, bien, j'imagine qu'effectivement, quand ils vont voir que ça marche bien, que les gens sont intéressés, il va y avoir d'autres compagnies qui vont peut-être abandonner le zipper traditionnel
oui.
qu'on n'aime vraiment pas.
Bon, on n'aime pas le zipper traditionnel.
Voilà.
Ça, je suis bien d'accord. Alors, voilà. On revient à un sujet qui est plus lourd, là, qui est plus...
Oui.
Mais qui, malheureusement, encore une fois,
on en parle. On en parle, hein. C'est ce que je me disais en faisant la revue de presse dans les derniers jours. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. On parle de mammographie, des femmes qui doivent faire des mammographies de contrôle qui sont refusées dans des cliniques parce que la clinique n'est pas bien adaptée ou l'appareil de mammographie ne serait pas bien adapté pour les personnes en fauteuil roulant.
Le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC, a fait effectivement une étude, un sondage. En fait, ils ont rejoint 50 cliniques pour leur demander si elles étaient capables de recevoir une femme en situation de handicap qui était en fauteuil. Et là-dessus, 24 ont refusé l'accès.
24 ont refusé l'accès parce qu'ils disaient effectivement ne pas être en mesure au niveau des équipements ou qu'ils disaient que leur personnel n'était pas adéquatement formé. Donc, effectivement, c'est alarmant quand on dit que les femmes doivent être dépistées pour éviter le nombre de cancers. Évidemment, quand une femme a un cancer, non seulement c'est un désastre pour elle
oui.
et pour sa famille, bien sûr, mais en plus, au niveau des coûts publics, effectivement, c'est un gros coût.
Oui.
Donc, on pourrait prévoir, on pourrait baisser les coûts au niveau de la santé publique
exact.
En faisant de la prévention, mais les personnes en situation de... d'handicap se font refuser les mammographies. Et donc, c'est effectivement un cas évident de discrimination là, pour le Conseil
ouais.
pour la protection des maladies parce qu'on ne devrait pas se faire refuser des soins, évidemment, là, pour une situation d'handicap. Le ministère de la Santé et des services sociaux est au courant du problème et déplore le manque
ouais.
d'accès.
Mais c'est comme s'il n'y avait pas de... je dirais, une coercition suffisante. C'est comme si le ministère n'était pas capable de forcer les cliniques à faire les adaptations nécessaires pour qu'elles deviennent...
On dit qu'on va réagir, qu'on va mettre de la pression, mais est-ce que c'est une priorité? À vous de me le dire, François. Donc, il faut voir à long terme ce qui va être fait. Par contre, ce que la ministre nous dit, c'est qu'il est... les machines de mammographie, les appareils de mammographie, donc, devraient être capables de se descendre suffisamment pour que les personnes en fauteuil roulant puissent recevoir la mammographie assise si les bras des fauteuils sont amovibles. Donc, elles ne voient pas où il y aurait un problème. Mais encore faut-il que les personnes dans les cliniques soient au courant de ça.
Oui, il y a aussi l'accès, en fait, au bâtiment lui-même, à l'immeuble en soi, parce que peut-être que la clinique est au troisième étage d'un immeuble qui n'est pas adapté.
Donc aux dames d'être debout, mais peut-être qu'il y a une autre solution. Mais voilà, encore faut-il être capable de bien former les femmes et les hommes qui travaillent dans ces Québécois. Et éventuellement, effectivement, vous le dites, François, d'éviter d'autres obstacles, parce que se rendre à la machine, c'est une chose, mais encore faut-il se rendre.
Oui, ben voilà. Alors, il y a toute la question du transport adapté, l'accessibilité de l'immeuble.
Ça, c'est autre chose, le transport adapté.
Parce
que
les 24 cliniques sur 50 qui ont fusé, ça ne veut pas dire que les 26 autres ont dit oui. Il y en a 18 qui ont accepté, il y en a 2 qui ont répondu peut-être, puis il y en a 6 qui n'ont jamais répondu à leur demande. Alors, ça, s'ils n'ont jamais répondu dans la demande, on peut presque les mettre dans le camp du non.
Hein? Oui, voilà.
Ça me semble être évident. Et c'est quand même... je pense que c'est en partie une question de mauvaise formation.
Oui.
Ils ne veulent pas s'embarrasser de faire quelque chose de compliqué quand, pendant le même laps de temps, ils peuvent faire 2 ou 3 mammographies moins compliquées.
Oui, voilà. Hein? Bon, c'est une question... C'est ça, il manque pas de clients. Donc, s'ils peuvent choisir des clients moins complexes et en faire plus, ils vont le faire.
Oui, voilà. Alors, peut-être que les moyens de pression utilisés par le ministère ne sont pas tout à fait les meilleurs. Ou peut-être faut-il penser à ce qu'ils aient plus de dents, hein, plus de mordants. On va penser aussi à la vie piétonne en parlant d'études chez Piéton Québec.
Oui, une étude, c'est Piéton Québec qui vient de sortir... et qui voit différents angles au niveau de la vie piétonnière, entre autres sur la sécurité des gens.
Oui.
Donc, 50% des piétons interrogés, entre autres, se sentaient insécures face aux intersections d'artères majeures. Donc, ça veut dire, en fait, c'est que les piétons ont peur de traverser. Il y a effectivement eu quelques accidents extrêmement malheureux. Et on parle aussi qu'au niveau de l'environnement, donc, ce serait très, vraiment adapté aux piétons. Évidemment, particulièrement aux personnes qui sont en situation de handicap, qui pourraient prendre un peu plus de temps.
Ou les personnes âgées aussi, qui peuvent prendre du temps à traverser. Et si c'est ça qu'il faut mentionner aussi pour rejoindre, ça peut être des personnes qui n'ont pas de situation de handicap, mais qui ont une poussette avec un jeune enfant.
Oui, aussi. Hein,
voilà, ça aussi, ça... Et ce que l'étude de Piéton Québec met en lumière, c'est que... Et dans sur leur page web, on voit très bien les exemples dans différentes villes autour de la région de Montréal.
D'ailleurs.
Oui, tout à fait. Où on explique comment des carrefours avec des artères importantes ont été bien adaptés à relativement peu de frais et relativement simplement pour devenir beaucoup plus sécuritaire. Et les gens de ces quartiers-là ont été interrogés avant et après. Et on voit qu'il y a une grande amélioration. Ces résultats sont encourageants. Ils confirment que les villes détiennent le pouvoir d'action pour rendre les artères plus conviviales et plus sûres, sans nécessiter toujours de grands travaux d'aménagement, parce que c'est évidemment... La raison budgétaire est souvent la raison invoquée.
Oui.
Ça se comprend quand on a un budget à gérer. Certaines intersections, un quart des piétons disent ne pas respecter la signalisation pour leur propre sécurité. Et ça, c'est terrible parce qu'ils adoptent une stratégie pour traverser au moment qui leur semble le plus sécuritaire, ce qui veut dire souvent quand c'est pas le temps, mais ils jugent que c'est le moment, évitant les mouvements de virage des véhicules. Et là, ça suppose que le piéton est entièrement responsable de sa sécurité, comme si c'était pas le cas de tout le monde sur la route de veiller à la sécurité de tout le monde.
Mais on parle quand même de mesures là, qui ont diminué de 31% les collisions avec blessés ou les collisions mortelles. Donc,
exact.
C'est quand
ça
même
marche.
Quelque chose qui fonctionne bien.
Oui.
Et donc, c'est des toutes petites adaptations là, pour permettre aux automobilistes, en fait, d'être plus... De passer de façon plus sécuritaire et donc pour les piétons de moins être à risque.
Exactement. Mais je peux vous dire que pas loin de chez nous, il y avait comme des mesures près d'un parc où il y a beaucoup d'enfants, où il y avait des pancartes qui ont été simplement déplacées d'à peu près 50 pieds, là, puis ça fait toute une différence. Alors, des fois, c'est pas grand-chose. Et quand on parle de piétons et qu'on dit que ça marche, là, c'est pour faire un mauvais jeu de mots. On vient après la pause. Et voilà, c'était Jam aux fruits de Michel Pagliaro. Ça, c'était il y a 51 ans, en 1973. Michel Pagliaro, qui se produit encore un peu partout au Québec. Voilà. Alors, il n'y a pas d'âge pour les rockers.
Les rockers ne vieillissent pas.
Oui, ben, en tout cas, ils continuent de jouer. Au Canada, Statistique Canada nous apprend que les personnes en situation de handicap sont, encore une fois, victimes plus que d'autres.
D'expulsion, effectivement, et avec la crise du logement, on est dans une situation difficile pour tout le monde, mais encore plus, on le disait dans les dernières semaines, ça aussi, François, on en parle beaucoup.
Oui.
On l'a dit dans les dernières semaines, les personnes qui ont des situations d'handicap sont d'autant plus victimes de la crise du logement parce que c'est beaucoup plus difficile de se loger. Et au niveau des expulsions, Statistique Canada nous sort donc des statistiques qui sont parlantes, des expulsions sans faute. Donc, c'est des expulsions où la personne n'a rien fait de mal.
Le locataire n'a pas mis le feu au rideau, là.
Non, mais qu'on veut faire des changements, des rénovations majeures, ou que le propriétaire emménage lui-même dans le logement, ou que une personne de sa famille emménage. Donc, c'est raison pour lesquelles les personnes propriétaires ont le droit d'expulser quelqu'un sans faute. Mais ça arrive beaucoup plus souvent aux personnes en situation d'handicap.
Oui, ben oui, 28 % des personnes handicapées vivent avec un handicap. C'est selon les chiffres, c'est le double ou au moins 60 ou 70 % de plus que la population moyenne.
Oui, 28 % des personnes donc qui ont été évincées vivraient avec une situation d'handicap. Donc, effectivement, au moins le double.
Donc, il semble que les personnes en situation d'handicap, curieusement, sont deux fois plus susceptibles d'être expulsées.
C'est tout à fait curieux, François. C'est comme s'il y avait une certaine discrimination.
Ben voilà, qu'ils sont peut-être moins capables de se défendre, de faire valoir leurs droits. Peut-être habitent-ils ou elles dans ce logement depuis plus longtemps, que le loyer en deçà des prix du marché...
Que ça dérange un peu le propriétaire de ne pas pouvoir augmenter le loyer comme il le voudrait, entre autres.
Ouais.
Mais c'est évidemment catastrophique dans l'optique où ces personnes-là, on l'a dit en plusieurs fois, s'il n'y a pas de logement pour les personnes qui n'ont pas d'handicap, qui n'arrivent pas à se loger, imaginez une personne qui a besoin de logement avec des adaptations particulières. À quel point ça ne se trouve pas?
Oui, là, la crise était déjà en place avant même que le logement au sens large soit dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et ça nous amène à la nécessité de la société d'en faire davantage pour les personnes en situation d'handicap. Et dans le budget fédéral, il y avait quelque chose à ce sujet.
Oui, on va avoir une petite chronique budget fédéral, là, François, parce que les libéraux ont présenté donc la prestation pour personnes en situation d'handicap, ce qui irait, qui toucherait donc jusqu'à 600 000 Canadiens qui pourraient avoir accès à cette prestation-là.
Prestation.
Oui, prestation, voilà. Donc, on parle donc d'une prestation qui va être obtenue pour les gens qui ont accès au crédit d'impôt pour les personnes en situation d'handicap.
Si je peux me permettre, ça nous rappelle qu'il est important de réclamer le crédit d'impôt.
Oui, voilà. Ça, c'est François Fiscaliste qui vous parle.
Oui, c'est ça.
Mais effectivement, ça donne plusieurs avantages. Ça donne droit à différents services et, entre autres, la nouvelle prestation canadienne, qui est quand même une prestation qui va soutenir ce qui est fait par les provinces. Donc, ça ne vient pas supplier, ça ne vient que soutenir, mais le gouvernement Trudeau qui a été très clair. Hein, les provinces n'en font pas assez pour les personnes en situation d'handicap et donc le gouvernement fédéral se doit de pallier.
C'est très inégal d'une province à l'autre, toutes sortes d'autres mesures également. La prestation fédérale pour personnes en situation d'handicap, on parle d'un maximum de 2400 $ par année, ce qui est bien, mais c'est pas la mer à boire. Mais voilà, on estime que 41% des Canadiens à faible revenu sont handicapés. Hein? Alors, là, encore une fois, c'est plus que la moitié. Donc, il y a une prévalence des personnes handicapées au sein de la population à faible revenu. Et on peut croire que 1,5 million de personnes handicapées au Canada, si 41% de ce 1,5 là Bon, enfin, alors, 600 000 personnes qui bénéficieraient de cette prestation, c'est bien. Oui. On peut penser peut-être que la cible aurait pu être plus élevée. Nous aurons le plaisir, Élisane, dans quelques semaines, d'avoir ici à l'antenne Guillaume Parent, qui nous parlera plus en détail de cette prestation-là. Alors, c'est un dossier à suivre.
Par contre, effectivement, le mouvement le handicap sans pauvreté reconnaît l'effort, mais comme vous le dites, François, il a dit que c'est insuffisant et donc qu'effectivement, il va falloir non seulement tenir la promesse pour la donner aux complices, ce qui n'est pas encore fait, parce que des fois, il y a des petits ajustements qui sont faits par la suite, et également que ça change pas le monde là, d'avoir 2 400 $, que c'est pas suffisant, même si on... Ils reconnaissent qu'on commence à quelque part et que c'est déjà bien.
Voilà.
Dans la même lignée, en fait, une nouvelle enquête révèle que 9 Canadiens sur 10 sont favorables à la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Effectivement, bravo, mais qu'effectivement, ça dit aussi que ces personnes-là donc croient qu'on n'en fait pas assez pour les personnes en situation d'handicap. Et là, on va rejoindre toutes, que ce soit des gens qui votent libéraux ou non. On va rejoindre beaucoup de gens qui votent pour
toutes les allégeances.
Parties, voilà.
toutes les allégeances politiques. Bravo, voilà.
Effectivement, on l'a dit, il y a plusieurs groupes qui défendent les droits des personnes en situation de handicap qui reconnaissent l'effort, mais qui soulignent que ce ne sera pas suffisant.
Encore tout à fait assez, ma fin. C'est un pas dans la bonne direction. Moi, les Pinières et Motricité Québec, le mémo... nous invite à une conférence dans laquelle on abordera de toutes les problématiques et les difficultés rencontrées par les personnes en situation d'handicap en ce qui concerne les plaies de pression.
Oui, donc c'est mardi le 30 avril à 11h.
Ça, c'est mardi dans 8 jours?
Oui, c'est mardi prochain, donc. On parle de 245 rue Schumann, où on va pouvoir donc parier de ça. C'est évidemment un problème qui concerne les personnes en situation d'handicap qui sont alitées, soit de façon permanente ou qui sont quand même souvent dans un lit ou assis, parce qu'effectivement, les plaies de pression, un, ça fait mal, et deux, ça peut dégénérer au niveau médical. Donc, c'est quand même un problème qui peut être assez grave. Et donc, vous êtes invité par moi, le Pignard Motricité Québec, à vous présenter si cela vous intéresse. Et effectivement, c'est mardi prochain, donc dans 8 jours.
Bravo. En parlant d'activités à venir, les 8 et 9 mai, INCA, l'INCA, son hub mobile sera à Trois-Rivières. On se souvient qu'en fin février, c'était à Saint-Jérôme, mais là, ça va être à Trois-Rivières.
Oui, ça se déplace, ces gens-là. Donc maintenant, effectivement, on est à Trois-Rivières, à l'hôtel Travelodge, sur le boulevard Jen Ashkreger, à la salle La Vieillette, et on a quand même... quelques activités diversifiées à vous offrir. Donc, entre autres, évidemment, les kiosques d'Éco seront là pour faire connaître les services et des produits adaptés du Centre Mieux Vivre. On parle aussi
des programmes
psychosociaux d'entraide.
Exact.
Et de différentes présentations, entre autres la présentation sur les applications téléphones intelligentes par Lynn Dubé,
qui était ici ce matin.
Donc ça, c'est jeudi, le 9 mai, de 10h à 11h30. Également, un groupe de soutien pour la gestion du stress pour les personnes qui subissent une perte de vision. Et un atelier pour ouvrir des portes sur le marché du travail, jeudi 9 mai toujours, de 15h à 16h. Donc, c'est quand même assez diversifié. C'est donné par des gens qui sont extrêmement compétents. Et on vous invite, si cela vous intéresse, à téléphoner à ICA ou aller sur le site Internet pour vous inscrire. Il va y avoir quelques petites collations, des gens bien sympathiques sur place.
Ben oui, parce qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Alors, si on veut péréter, si on veut être bien attentif à tout ce qui va se passer. Donc, c'est mercredi le 8 mai en après-midi.
Jeudi le 9 mai.
Et jeudi le 9 mai, on reparlera la semaine prochaine des programmes pour les jeunes qui s'en viennent en mai et en juin. Ben voilà, pour nous, c'est tout pour tout de suite. Merci beaucoup, Élisane.
Merci beaucoup.
On remercie Claire Guérin à la recherche, grâce à qui on finit toujours par rejoindre des gens qu'on doit rejoindre. Bravo. Mathieu Tessier à la techno. qui sait comment se débrouiller dans des situations qui sont parfois un peu... Hein? Un peu stressant,
voilà.
Difficile, bravo. Voilà, et c'est François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.